Et c'est aussi notre sujet, deuxième partie de la Grande Table, tout de suite Caroline Brouet.
C'est moins notre sujet que notre prétexte, en effet, Ludovic Piétenu, merci. Puisque nous recevons Fethi Benslama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'Université Paris Diderot. Vous faites paraître, venez de faire paraître, je crois qu'il est sorti hier en librairie, un furieux désir de sacrifice, sous-titre Le surmusulman, aux éditions du Seuil. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé au sociologue et philosophe Raphaël Yeugier de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Raphaël Yeugier est professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, membre du Collège international de philosophie. Vous avez fait paraître récemment plusieurs ouvrages, on peut en citer un, « La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle » au CNRS édition. Vous posez d'emblée une question, Fethi Benslama, dans ce furieux désir de sacrifice, d'emblée une question à laquelle le livre entier tente de répondre. Voici cette question. Comment penser le désir sacrificiel qui s'est emparé de tant de jeunes au nom de l'islam? Est-ce que vous avez réussi à y répondre?
J'ai essayé. J'ai essayé d'y répondre à partir d'un certain nombre de données que nous avons sur ces jeunes, sur ma propre expérience clinique, surtout celle-là de travail pendant beaucoup d'années dans les cités de la banlieue nord, et puis sur essayons de lier ça à ce que je perçois de ce qu'on appelle l'islamisme et de la possibilité du dépassement de cela. Tout ça, et je le tiens pour moi dans une... Bon, alors c'est un essai qui vise à proposer à un public large cette question-là et non à un travail de spécialiste entre des psychanalystes et des psychologues. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, c'est au lecteur de dire, au fond, mais c'est ce que j'ai tenté en tout cas.
Il y a deux parties dans cet ouvrage, une partie qui s'attache au terme de radicalisation et une partie qui s'attache plutôt à la notion de surmusulman. On va peut-être nous aussi séparer les deux, mais d'abord je voudrais vous demander, Fethi Benslama, cette séquence des 6 mois. Vous étiez venu à la Grande Table au lendemain des attentats, c'était 2 jours après, dans mon souvenir, et vous veniez tout juste de faire paraître votre ouvrage collectif, l'idéal et la cruauté, subjectivité et politique de la radicalisation, dans lequel vous tentiez de revenir sur le profil des terroristes. Et vous nous aviez expliqué qu'il n'y avait pas un profil de terroriste, mais que les terroristes étaient très divers et que ce profil était en fait un alliage très particulier entre un idéal et la haine, et que c'était cet alliage qui était la caractéristique commune, si tant est qu'il fallait en trouver une, de tous les djihadistes. Est-ce que ce livre aussi, Un furieux désir de sacrifice et cette notion de surmusulman, s'inscrit dans la lignée de vos travaux précédents, de vos recherches précédentes, ou bien dans cette séquence des 6 mois entre le 13 novembre et aujourd'hui, vous avez vous-même été surpris de ce que vous avez découvert en travaillant un peu plus?
En effet, il y a des choses qui sont nouvelles dans ce livre par rapport au précédent. Il y a un travail collectif. C'était la première fois l'année dernière que des psys s'intéresse à cette question de la radicalisation. Et donc, on partait finalement sur un terrain, de ce côté-là, un terrain vierge, même s'il y a des travaux à l'étranger, mais moi je conteste la validité de ces travaux pour beaucoup de raisons sur lesquelles on peut revenir, puisque des travaux comme ceux de Sagemann, par exemple, ont nié la dimension psychopathologique, ont laissé de côté la dimension subjective dans ce phénomène de la radicalisation. Pendant des années, on a fonctionné avec ça. Et donc, je le mets en question et je crois qu'aujourd'hui, on commence à l'entendre. Il y a des aspects qui sont devenus beaucoup plus évidents, notamment en creusant cette dimension qui est tellement flagrante. Et on n'en parlait pas à l'époque ou très peu, que les 2/3 de ceux qu'on appelle radicalisés sont des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette partie de la mutation subjective qui amène vers l'âge adulte et qu'on a laissé ça de côté. Et que donc, en creusant cette partie-là, en revenant à la clinique, en rencontrant des jeunes, en voyant des psychologues qui travaillent avec eux, eh bien, justement, cette hypothèse-là apparaît de plus en plus valable, que ce qu'on appelle la radicalisation en France, c'est-à-dire ces 12 000 aujourd'hui, eh bien une grande partie d'entre eux sont des jeunes qui sont dans cette problématique de la transition subjective, difficile pour certains d'entre eux, et qui les rend réceptifs à l'offre de radicalisation, voire de djihadisme. Voilà. Et donc cette hypothèse-là, je crois que je l'ai creusée autant que aujourd'hui on peut, mais c'est pas fini.
Voilà. C'est un travail toujours en cours. Raphaël Liogier.
Oui, moi je trouve que c'est un des rares livres, à vrai dire, qui permet de dépasser cette fausse alternative, qui est en réalité un dilemme, entre l'explication qui serait une explication purement sociale. Et on avait critiqué les sociologues, y compris moi, j'ai été critiqué, mais je pense que parce que j'ai pas été très bien compris, cela dit. Mais
parce que vous tentiez d'expliquer les choses.
Voilà. C'est une explication qui tiendrait, c'est seulement une question de délinquance, c'est seulement une question purement sociologique, socio-économique, etc. Et puis d'un autre côté, l'explication qui tendrait à dire c'est idéologique, c'est l'islamisme politique. Alors on pourrait penser que votre explication qui elle rabat vers le psychisme toute forme d'explication, enfin qui aurait une restriction du sens, alors qu'en réalité vous tenez compte de ces deux positions. Et en fait, c'est un élargissement. C'est ça qui me paraît intéressant. Par exemple, sur la question de l'islamisme. En fait, vous ne niez pas l'importance de l'islamisme. Vous faites une généalogie de l'islamisme et de l'islam politique en montrant qu'il y a une autre face. La face de l'expiation, et c'est à travers ça que vous arrivez à construire cette je sais pas si on peut appeler ça un idéal type, l'idéal type du sur-musulman.
Une notion, vous dites.
Cette notion qui est dans cette espèce de, qui renverse, en quelque sorte, un certain nombre de principes même qui existent dans l'islam classique. Moi, j'ai bien aimé lorsque, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, parler de Wala Akbar. Vous dites normalement, voilà, Akbar, c'est l'humilité, c'est l'expression de l'humilité, c'est l'expression d'une sorte, une forme de modestie par rapport à la puissance divine. Non, là, ça va être une force, ça va être un prétexte de transgression, justement pour, je crois que c'est le cœur finalement de l'idée du sur-musulman, pour être surpuissant. Mmh. Alors la question que je voudrais poser,
avant que vous posiez cette question qui me semble être très précise, oui. Je voudrais du coup demander très clairement à Fehdi Benslama, c'est quoi le sur-musulman? Parce que pour les auditeurs, pour l'instant, on n'a pas défini la notion. Donc.
Alors, il faut dire juste une chose pour qu'on puisse la comprendre. La psychanalyse ne travaille pas au niveau uniquement de la psychologie individuelle. Elle cherche à articuler ce qu'il en est de la psychologie individuelle et collective. Et donc, c'est cette articulation-là. Sinon, on va tout le temps séparer ce qui est social, ce qui est individuel, alors que c'est pas séparé dans la vie. Bon. Alors, qu'est-ce que le sur-musulman? J'en donne une définition assez simple, au fond. C'est un musulman qui veut être encore plus musulman que le musulman qu'il est. Et que ce mouvement ému, le mouvement, cette recherche, cette tendance, mais qui peut s'incarner dans une figure comme ça, le sur-musulman, on peut en trouver, je peux en citer. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube et on peut retrouver vraiment des incarnations de sur-musulman. Elle est mue, c'est ce vouloir devenir sur-musulman, mue par, en fait, une très grande culpabilité, un très grand désarroi et un sentiment de défection. Le sentiment de défection par rapport à sa religion, à l'identité, et que donc ça amène des gens à aller dans une surenchère, dans la religiosité, une surenchère qui passe par de la démonstration et de la monstration, montrer des signes, montrer qu'on est un très bon musulman, mais plus que bon musulman, un excellent musulman dans l'excellence et chacun plus. Et donc, on va montrer des stigmates, Et ça, ce que j'essaie de dire, en tout cas, c'est que c'est le produit d'un siècle de ce qu'on appelle l'islamisme. Que l'islamisme a été, au fond, une défense de l'islam par une religion, une religiosité extrême. C'était sa façon de se défendre par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'Occident amène de l'autonomie du politique, à toutes les inventions liées à la lumière, et l'islamisme a développé donc une sorte de surpuissance religieuse, et au fond, le résultat, au bout, eh bien, on a l'apparition de ces tendances aux surmusulmans et à certains moments leur incarnation.
Bon, on va revenir à toutes ces questions, mais Raphaël, juste vous pouvez du phrase. Coup poser
non,
votre
non,
question.
Non, finalement, je la poserai juste après parce qu'il y a une phrase qui illustre parfaitement, je trouve, la définition que vous venez de donner. C'est sur cette idée selon laquelle il y aurait eu une sorte de, donc, à l'origine de l'islamisme, mais dans sa version idéologique, d'écrasement de l'islam et donc une sorte de réaction. Et vous dites justement, de cela résulte cette espèce de sentiment de culpabilité et le fait de vouloir en faire plus. Et je vous lis, il en résultera le jugement que leur foi, en parlant des musulmans, s'est affaiblie et que leur défection est la cause de leur déclin, d'où l'auto-reproche et l'expiation, le rabaissement et la réidéalisation, la sainte obligation d'être davantage et encore plus musulman, et c'est l'invention psychologique du sur-musulman.
C'est ça.
Je trouve que c'est parfaitement... Alors, moi, ma question, ça tombe bien, ma question, c'est que là, vous le situez dans la généalogie de l'islamisme, dans sa version, dans son aspect psychologique, dans ses conséquences psychologiques. Or, moi, ma définition de la modernité telle qu'elle est en train d'exister aujourd'hui, de se construire aujourd'hui, ce n'est pas la post-modernité, mais c'est une modernité qui est de plus en plus, enfin qui s'extrapole elle-même, qui se déborde elle-même. C'est une modernité de l'hubris, donc du débordement. Ce que j'appelle d'ailleurs l'hypermodernité, en prenant le préfixe grec hyper, qui veut dire au-dessus, au-delà d'eux, toujours plus. Qu'on retrouve d'ailleurs chez les jeunes qui ne sont pas pour autant musulmans, dans être trop, c'est bien. Ça va devenir le qualificatif positif, c'est être trop. Donc moi, je me demande si, malgré tout ce qu'on explique, la thèse de la guerre de civilisation, l'idée que les musulmans seraient différents, que l'islamisme aurait suivi une pente différente, si quelque part, il n'y a pas une intégration à l'hypermodernité de cet individu qui veut en faire plus, qui veut en faire trop, parce que en fait il est hyper moderne dans ce sens-là.
Oui.
Petit Ben Slama.
Et moi je serais d'accord à ce, j'ajouterais juste quelque chose, c'est que en fait l'islamisme a perçu très vite l'excès que représente la modernité. Il l'a perçu comme une menace contre l'islam, une menace contre la religion, et il a développé un excès religieux pour faire face à ça. Et cet excès religieux, justement, il ne pouvait pas passer uniquement par des formes collectives. Il fallait qu'il individualise pour lutter contre l'individualisation par la modernité. Et c'est vrai. Donc, il a suivi le mouvement de la modernité.
Et, c'est un négatif. Hein, c'est un négatif de la modernité.
C'est
donc,
ça,
il
c'est
suit
un
la modernité et comme son ombre.
Absolument. Et plus que ça, je crois que en fait, à son insu, l'islamisme a produit une sécularisation inconsciente. Par justement dans le mouvement de vouloir démontrer que les musulmans sont en défection, qu'ils ont trahi, etc. Au fond, il a instillé cette idée de la trahison, de la culpabilité, etc. Mais ça veut dire qu'en même temps, beaucoup intérieurement, beaucoup de musulmans se sentent en défection, se sentent vraiment comme étant sortis. Alors, certains vont réagir en devenant sur-musulmans, mais certains vont quitter, tout simplement. Et donc, d'une certaine manière, l'islamisme contribue à la sécularisation, je dirais. Et une partie, c'est ce que aujourd'hui on ne dit pas assez, une partie du monde musulman est sécularisée. Une grande partie des musulmans sont sécularisés aujourd'hui. On voit ceux qui sont du côté du sur-musulman, mais on ne voit pas ceux qui sont séparés. Ce sont séparés, ce que j'appelle les musulmans séparés. Ceux-là, on les voit moins.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec notre invité aujourd'hui, Fethi Ben Slama, psychanalyste, auteur d'un furieux désir de sacrifice sous titre Le Sur-musulman, qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Autour de la table, pour l'interroger à mes côtés, il y a Ludovic Piétenu et le sociologue et philosophe Raphaël Yeugier. Raphaël Yeugier. Une autre question peut-être.
Oui, j'ai une multitude de questions et j'ai une question aussi sur, au-delà du rapport spécifique à l'islam et même du rapport spécifique à la société moderne, il me semble que votre livre pose aussi la question, une question qui est fondamentale de nos jours, de la définition de la religion. Et voilà, vraiment la question de la définition de la religion. Et moi, je me suis heurté à ça à plusieurs reprises. Je vais vous dire pourquoi, parce que je participais souvent, comme j'imagine que ça vous est arrivé aussi, à des débats où il y a un représentant de l'Église catholique, un représentant, un imam, des gens qui sont bien pensants et qui nous expliquent que la religion, c'est la paix, c'est pour être gentil, c'est pour l'amour. Puis parfois, vous êtes dans d'autres cercles, cénacles, et on vous dit, ah, la religion, non, la religion, c'est uniquement la guerre, c'est uniquement l'instrumentalisation politique, c'est uniquement la violence, etc. Et on a ces deux positions qui s'opèrent. Moi, j'ai toujours pensé que la religion, c'était autre chose. Et là, vous le dites très bien, la religion, c'est le rapport à l'illimité, en reprenant cette notion d'océanique. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être ou l'un ou l'autre, mais que c'est pas le sujet. La religion, elle renferme quelque chose de plus fondamental, on pourrait dire de plus anthropologique, que simplement, c'est soit la paix d'un côté, exclusivement la paix, l'amour, ou soit seulement la guerre. Ça, j'ai trouvé ça... très intéressant.
Il y a surtout un malentendu entre ce que la religion est devenue en Occident, qui a été pas mal désactivée, qui a dû subir les effets des sociétés dans lesquelles elle se trouvait, qui sont devenues des sociétés démocratiques, qui ont limité son champ. Et donc, la désactivation de Dieu, on pourrait dire, dans la société, tout cela... On l'appelle encore la religion. Mais la religion dans un monde où ça ne s'est pas produit, où les sociétés restent religieuses, c'est pas du tout la même chose. C'est la religion a une prétention à gérer l'ensemble des affaires des êtres humains, à dire son mot sur tout. Et là, donc, quand on dit religion, eh bien, on ne sait plus de quoi parler. Est-ce que c'est la religion qui s'est limitée à être dans les églises et à être du domaine de la conscience individuelle? Ou est-ce que celle qui a encore aujourd'hui dans beaucoup de pas dans l'islam, pas que dans le monde musulman, dans le monde hindou par exemple, elle a encore cette envergure de vouloir s'occuper des affaires du monde dans sa totalité?
Fethi Ben Slama, ce qui est sûr, c'est que dans votre analyse, le fait religieux est très important. La place que vous accordez à la religion, est très importante. Depuis six mois maintenant, qu'on a vu paraître ou qu'on a entendu des analyses, des interprétations sur qui étaient ces djihadistes, comment étaient formés les terroristes, comment expliquer le phénomène de la radicalisation, on a vu pointer des divergences d'analyse nécessairement entre les uns et les autres. Une querelle a même opposé deux des plus grands penseurs de l'islamisme aujourd'hui, Gilles Kepel d'un côté, Olivier Roy de l'autre. Gilles Kepel tentant de replacer, peut-être comme vous le faites, le fait religieux au centre de l'interrogation djihadiste, quand Olivier Roy a formé cette hypothèse d'une islamisation de la radicalité. À vous entendre, mais je voudrais vraiment bien vous comprendre, vous êtes plutôt du côté de l'importance du fait religieux, puisque vous allez même jusqu'à dire que l'islamisme n'est pas un projet politique de l'islam, que l'islamisme est anti-politique, oui. Qu'il vise à subordonner le politique à la religion.
Bah oui, absolument. C'est une... Écoutez, dans la querelle entre Kepel et Roy, pour moi, c'est...
C'est ni l'un ni l'autre.
C'est... Non, je veux dire, sur le fond... c'est les deux à la fois. C'est il y a une radicalisation de l'islam, une islamisation de la radicalisation. Je pense que c'est une histoire de style entre les personnes. Donc on va laisser cette querelle. Non, moi ce qui m'intéresse, ce sont les racines psychiques inconscientes de ce qu'on appelle religion. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on lit dans les textes. C'est-à-dire la religion explicite. Ça, la religion explicite est bonne pour les discussions théologiques, etc. Et celle-là, je peux vous dire que son impact dans la réalité psychique est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre qu'on ne le prétend. C'est-à-dire que les gens qui sont croyants, qui se radicalisent, qui s'extrémisent, ça se fonde pas sur nécessairement le Coran ou sur des commandes. C'est d'autres ressorts. Et... mon travail, c'est comme ça que je le définis, c'est d'essayer pour moi de penser les racines psychiques inconscientes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme et qui est l'événement, un des grands événements dans la civilisation de l'islam depuis maintenant un siècle. Et c'est ça. Et je pense que cette approche permettrait peut-être d'élucider, de mieux comprendre un certain nombre de choses que si on restait sur le discours apparent des religieux ou de la religion. Ce sont ces ressorts-là, à mon avis, qui conduisent des gens à s'engager et engager leur vie, aller jusqu'au sacrifice, jusqu'au meurtre, jusqu'à ce qu'on voit, la cruauté qu'on voit. Ça ne s'explique pas par les textes évidents. Voilà. Et donc, il faut aller aujourd'hui un peu plus en avant. Et en fait, c'est cette ouverture-là que j'essaie de faire pour permettre de comprendre à quoi on a affaire. Parce que si on ne comprend pas à quoi on a affaire, on ne peut pas traiter le problème. On ne peut pas aborder ces jeunes comme on ne peut pas prévenir. Voilà. Et j'essaie en fait de montrer que le discours de bois qui est tenu par les textes religieux évidents ressemble en fait beaucoup aussi au discours de bois que tiennent les théologiens. Ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à saisir les ressorts qui aujourd'hui peuvent amener des jeunes à vouloir mourir, à vouloir tuer, à vouloir combattre. Et pourquoi ils combattent? Et même si on est évidemment contre tout cela, ça ne suffit pas de dénoncer. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui meut tout cela. Qu'est-ce qui amène des jeunes à aller dans cette aventure terrifiante pour certains d'entre eux et qui a des conséquences pour toutes les sociétés du monde musulman et aussi aujourd'hui, puisque l'islam, les musulmans sont partout, aussi là où ils vivent.
Une question de Ludovic Piétenu.
Fethi Ben Slama, on a bien compris ce qu'était un sur-musulman pour vous. Ça suppose qu'il était musulman avant. Quels sont les ressorts psychanalytiques pour les jeunes de 15-25 ans qui étaient des catholiques ou des athées peut-être même
avant? C'est les mêmes ressorts. C'est ça qu'il faut... C'est les mêmes ressorts. C'est-à-dire que si on situe l'effet de la religion, non pas dans les textes évidents, non pas dans la croyance... mais dans le besoin de jeunes qui sont dans un moment de transition, qui sont à la recherche d'idéaux, et que ce qu'ils trouvent sur le marché ne répond pas à leurs besoins, qui sont des jeunes dans des moments de trouble de l'identité. C'est ça l'adolescence, c'est qu'il y a un moment où il y a cette déstabilisation des limites entre ce que je suis et l'autre, entre la vie et la mort, entre le monde et ce qui est au-delà du monde. Et qu'ils sont dans une quête, parce que certains d'entre eux ne vont pas bien. Et bien que ce soit pour des jeunes musulmans, ou d'autres jeunes qui ne sont pas musulmans, l'offre de radicalisation, ou l'offre de djihadistes, peut sembler répondre à leur quête. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de convertis. Beaucoup de convertis, et y compris des convertis de familles musulmanes, c'est-à-dire des familles sécularisées. Et quand on additionne les deux, ça fait beaucoup de monde, ça fait 40%. 25% viennent de familles non musulmanes, et le reste de familles musulmanes sécularisées. Donc ça montre bien que le ressort ne se situe pas dans l'islam tel qu'on le dit, dans les textes, le Coran, etc., mais que c'est dans cette demande, ce besoin... quand certains jeunes, de répondre à la situation dans laquelle ils se trouvent.
Raphaël Diogier.
Oui, mais je crois que vous répondez en fait très clairement dans le livre à la question qui vous a été posée sur l'éventuelle conversion de gens qui viennent de milieux catholiques, sécularisés, etc. Vous dites c'est qu'à un moment donné, l'islam, cette foi, va être représentée comme la seule foi qui permet ce dépassement. C'est-à-dire qui permet justement cette hubris, cette espèce de sortie, cet au-delà. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est étonnant. Je suis étonné d'ailleurs, vous ne l'ayez pas prononcé,
parce qu'il est au cœur de
l'histoire. Il y a un autre mot, c'est le mot jouissance. Parce que le ressort finalement, j'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant, c'est que à travers la structure de la jouissance, vous permettez de réconcilier, de dépasser, je vous disais, cette fausse alternative, justement, qui a été évoquée, radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, c'est-à-dire que ce soit des ressorts purement idéologiques. Non, c'est vrai que ça peut pas entraîner un individu jusqu'à la mort. C'est-à-dire que on nie, dans les explications que vous appelez, et je crois que vous avez raison, des explications totalisantes, on nie ce qui, chez l'individu, peut vraiment pousser, c'est la jouissance. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est des êtres désirants et des êtres de jouissance. Donc, qu'est-ce qui fait jouir? Et là, je crois que le fait que vous soyez psychanalyste est extrêmement pertinent.
Alors, vous avez raison, vous rappelez un aspect. Parfois, le lecteur, et vous êtes un lecteur tout à fait remarquable, la question de la jouissance est centrale. Ce qui conduit les êtres humains à aller aux extrémités les plus folles, c'est pas dans le monde des idées. Quand on parle de l'idéal, c'est pas un idéal en lui-même, mais ce que cet idéal procure à quelqu'un et que nous appelons de la jouissance, qui n'est pas simplement du plaisir, mais qui est un excès dans lequel il y a aussi de la souffrance en même temps et qui peut conduire quelqu'un à sa propre destructivité. Et en effet, et beaucoup d'ailleurs, la jouissance ne concerne pas que ces jeunes ou les djihadistes, la jouissance concerne chacun d'entre nous. Tempérer, parce que nous savons l'insérer dans des normes, la tempérer par le langage, la parole, mais dans d'autres situations, d'autres cas, et pour d'autres personnes, cette tempérance de la jouissance ou son filtrage ne peut pas se faire. Et le moment de ce moment du passage de l'adolescence est un moment où justement la question de la jouissance...
On cherche sa jouissance.
Il y a la recherche, et en même temps, elle est effrayante, les deux à la fois.
Fethi Ben Slama, vous terminez sur un chapitre qui s'intitule « Le dépassement du surmusulman ». Vous insistez beaucoup sur l'importance de ce dépassement du surmusulman. Juste déjà une précision quant au terme que vous avez choisi, parce qu'autant j'ai l'impression que les chercheurs s'entendent pour parler de la radicalisation. Vous vous distinguez une radicalisation comme menace, une radicalisation comme symptôme, mais vous restez dans le processus de radicalisation. Autant, et on l'a vu notamment lors de ce colloque international sur la prévention et la radicalisation qui s'est tenu les 27 et les 28 avril dernier, où vous étiez d'ailleurs, Fethi Ben Slama, autant les chercheurs ne sont pas d'accord pour le terme de... faut y aller très laid, déradicalisation. Est-ce que ce terme de dépassement vient combler, justement, remplacer ce terme de déradicalisation? Comment l'entendez-vous?
D'abord, le dépassement du surmusulman, je le vois dans ce qui a pu avoir lieu dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. Pourquoi? Et qu'aujourd'hui, on refoule, on oublie, il y a des jeunes qui sont sortis dans la rue, qui ne psalmodient pas, qui n'appellent pas, qui ne le font pas au nom de Dieu, qui n'invoquaient rien, ils voulaient des droits sociaux et politiques. Et tout ça semble comme aujourd'hui s'il n'avait pas existé, et même on décrit ces révolutions alors qu'elles ont été détruites, justement, par les mouvements islamistes, par les pays du Golfe qui ont financé le djihadisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous prendre un petit exemple. Un des mots d'ordre de ces révolutions a été un vers d'un poète tunisien des années 30 qui dit « Quand le peuple veut vivre, le destin doit répondre ou doit plier. » Partout dans le monde arabe. Or, ce vers est considéré comme blasphématoire. Pourquoi? Parce que la notion de destin est liée à Dieu dans l'islam. C'est Dieu qui destine les êtres humains, il les décide. Et quand tout le monde s'est mis à crier ce vers-là, il faut que le destin plie, ça veut dire il faut que Dieu plie. Voilà quelque chose qui représente ce que j'appelle la sécularisation et même l'athéisme inconscient. Et donc ces foules se sont révoltées en désactivant, en sortant de la volonté de Dieu pour inscrire la volonté humaine. Voilà le dépassement du surmusulman. Un exemple qu'aujourd'hui on essaie d'enterrer.
Donc un dépassement collectif d'un processus individuel
politique.
Malgré tout.
Oui, non, politique collective.
Parce que non, mais le processus du surmusulman est un processus individuel.
Il est individuel, il est collectif.
Travaille au sous-bassement psychologique.
Les deux. Il articule quelque chose de l'individuel et du collectif. Maintenant, pourquoi j'accepte le mot de radicalisation, je le traite comme un symptôme. De quoi? Je reviens à quelque chose qui n'est pas suffisamment vu dans le mot radicalisation, qui est la notion de radical, qui veut dire la racine. Et moi, ce que j'ai vu dans mon travail de clinicien, chez ces jeunes qui se radicalisent, j'ai vu une recherche d'enracinement. enracinement pour des jeunes qui sont en errance, un enracinement qui peut correspondre à leur réalité, de déraciner à tous les sens du terme, dans leur milieu, dans leur lieu, au banc des lieux, ou bien aussi un déracinement psychique où ils sont en errance. Et que donc la radicalisation, il faut prendre au sérieux le terme, est une tentative, est une recherche d'enracinement. Et donc c'est pour ça que je l'accepte et je l'utilise dans ce sens-là. Je le distingue de la notion de sécurité publique. Je pense que l'État a un devoir de sécurité. Il doit, en effet, chercher ceux qui peuvent devenir violents, etc. On peut dire beaucoup de choses sur ça. Mais moi, c'est cet aspect-là que je souligne. Pourquoi non déradicalisation? Parce que si la radicalisation est une tentative d'enracinement, venir voir quelqu'un pour lui dire « Venez, on va vous déradicaliser », c'est-à-dire qu'on va vous déraciner de nouveau, c'est une absurdité. C'est pas comme ça qu'on peut aider des jeunes à sortir de là où ils sont. On les aide pas en leur disant on va vous enlever ou enfin, avec cette croyance qu'on va laver le cerveau, qu'on va faire tourner la machine à l'envers.
Mais qu'est-ce qu'on va faire et je crois que vous êtes partie prenante, Fethi Ben Slama, qu'est-ce qu'on va faire dans ce centre d'hébergement de longue durée pour la prise en charge des personnes radicalisées qui devraient être installées cet été, par exemple?
Alors, je crois d'abord que sous la critique de la déradicalisation, finalement, le gouvernement a renoncé à utiliser officiellement ce terme, ce qui est une bonne chose. On parle d'insertion citoyenne, centre d'insertion de citoyenneté. C'est une très bonne
chose.
Manuel
Valls a présenté le 9 mai un plan d'action contre la radicalisation.
Voilà, bon. On
n'est pas pour la déradicalisation, on dit contre la
radicalisation.
Contre la radicalisation. Bon, ça, si ça tâche, moi, je distingue entre le rôle du chercheur et le rôle de l'homme politique. Il a son discours, son langage. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est véritablement accompagner des gens pour d'abord essayer de comprendre et de penser ce qui leur est arrivé, comment ils l'ont fait, se ressaisir de leur histoire, rentrer de nouveau, parce qu'un des effets de la radicalisation, c'est ce que j'indique un peu dans le livre, c'est que les gens perdent leur singularité. Ils sont automates, ils disent la même chose. Lui permettre de retrouver cette singularité à travers une démarche où on le traite comme quelqu'un de responsable de sa vie, de ce qu'il a fait. Et pas comme quelqu'un qui est là et qu'on va lui retourner le cerveau dans un autre sens. Ça ne peut pas marcher. Et donc je récuse aussi la présence des religieux et de la religion dans ce processus-là. C'est pas en amenant une religion officielle, je pense qu'en amenant une religion officielle dans ces lieux-là, on va au contraire amener des jeunes à radicaliser parce que justement ils veulent sortir de ça.
Sur la chanson très douce Daydreaming du nouvel album de Radiohead, Moon-Shaped Pool, le choix aujourd'hui du réalisateur de l'émission Philippe Baudouin. Ce disque est disponible en téléchargement payant depuis dimanche dernier et l'édition CD et vinyle du disque est prévue pour le 17 juin. Merci beaucoup à vous, Fethi Ben Slama, d'être venu au micro de la Grande Table. Je rappelle le titre de ce dernier livre, nouveau livre, qui est le vôtre, Un furieux furieux désir de sacrifice, le surmusulman, aux éditions du Seuil. Merci à vous d'être venu, Raphaël Liogier, au micro de la Grande Table. Également, la Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. Cette semaine, Maïwenn Guizhou. À la réalisation, c'était donc Philippe Baudouin. À la technique, Dophar Guéride. On se retrouve lundi en direct du Festival de Cannes.